Et cette semaine, avec notre géopolitologue et chroniqueur Daniel Haber, on évoque la reprise de l'initiative israélienne, et ce, alors qu'on approche bien sûr des un an depuis le début de la guerre. C'est un échange, une conversation que Daniel Haber a eue en répondant aux questions de Blaise van der Linden.
Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Blaise et bonjour chers auditeurs.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Daniel, nous approchons des un an de guerre et un an depuis les massacres du Hamas dans le sud d'Israël. On a l'impression ces derniers temps qu'il y a une certaine reprise de l'initiative par Israël. Toutes ces opérations contre le Hezbollah, les explosions de beepers, des talkie-walkie, cela change quelque chose sur la situation géopolitique de l'État hébreu?
Et vous pourriez surtout ajouter ces assassinats ciblés de très hauts dirigeants à la fois militaires et politiques, du Hamas, du Hezbollah et même de l'Iran, puisqu'un général iranien a été tué le 1er avril, etc. Et d'ailleurs, le 1er avril, ça marque au fond le début de ce changement que vous annoncez. Alors, si vous me demandez si tout ça change la situation pour Israël, oui et non. Sur le plan qui est peut-être le plus important des perceptions, du sentiment, etc., ce qui se passe en ce moment change beaucoup la situation d'Israël, parce qu'Israël est en train de retrouver cette aura à la fois mystique et mystérieuse d'un pays qui est toujours capable d'inventer des choses absolument incroyables. Donc là, on a une sidération non seulement des ennemis d'Israël, ils sont tellement sidérés qu'ils ne savent plus quoi dire et surtout ils ne savent plus quoi faire. On voit bien que face à toutes les provocations, parce que tout ça ce sont des provocations voulues par Israël, les ennemis sont incapables de répondre, sauf par des imprécations les plus menaçantes qui rappellent le temps où Saddam Hussein pérorait sur toutes les télévisions en disant « vous allez voir ce que vous allez voir » et puis bon, l'Irak a été vaincu et Saddam Hussein éliminé. Et donc, ils ont tous ça en tête. Mais même les amis d'Israël qui commençaient à douter de la capacité d'Israël, sont en train de retrouver l'Israël qu'on a connu, l'Israël qui est capable de faire des choses absolument uniques au monde. Ça rappelle NTB, ça rappelle les moments les plus glorieux. Donc ça, c'est quand même très très important, parce que il faut voir que depuis le 7 octobre, Israël subit ce massacre épouvantable, et même pendant les opérations militaires sur Gaza, elle a subi une vague absolument épouvantable, médiatique. Et d'ailleurs, c'est pas seulement Israël qui a subi ça, c'est tout le peuple juif. On a tous été concernés par ça. Et donc, ça a laissé un sentiment d'isolement, un sentiment d'angoisse dans l'ensemble du peuple juif et même en Israël. Et puis, il y a cette reprise de l'initiative par Israël. Mais il faut rappeler que ce qui se passe en ce moment au nord d'Israël, ça a commencé dès le 1er avril. 1er avril, où Israël a tué un général iranien à Damas, dans le consulat iranien. Et depuis, Israël ne cesse d'aller chercher les plus hauts dirigeants possibles de ses ennemis pour les détruire. Et on voit bien que cette reprise de l'initiative change le cours de la guerre.
Vous parlez justement de ce général iranien. Sur le terrain, il y a les attaques du Hamas, du Hezbollah, mais c'est l'Iran qui est derrière tout ça.
Voilà. Donc, c'est très bien de rappeler que la situation stratégique globale d'Israël dans cette guerre actuelle n'a pas changé avec les attaques contre l'Hezbollah et depuis le 1er avril. L'Iran reste à la manœuvre. Maintenant, on sait que l'Iran a décidé de mener ce qu'on appelle une guerre d'usure. Le mot anglais est bien plus intéressant, attrition. Et donc, cette guerre d'usure, elle est menée par non pas l'Iran directement, mais par ces, alors j'appelle ça les 3 H et les 3 M. Les 3 H, c'est Hamas, Hezbollah et Houthis, et les 3 M, c'est les 3 milices pro-iraniennes en Syrie, en Irak et en Judée-Samarie. Ça fait beaucoup de fronts auxquels Israël fait face depuis le mois d'octobre. On se polarise beaucoup sur un certain nombre d'événements à Gaza, mais c'est toute la région qui a été sans cesse à l'assaut d'Israël, et que l'objectif de l'Iran, il est double derrière cette attaque multifront. Le premier, c'est tranquillement derrière cet écran de fumée qu'il envoie, développer la bombe atomique. On l'oublie toujours, mais c'est vital. Et derrière, c'est d'affaiblir à la fois Israël et tout l'Occident. Et il faut bien dire qu'il a réussi. Israël est divisé. On a quand même eu cette triste révélation que lorsque le Hamas a assassiné 6 otages, une partie des Israéliens, des intellectuels, ont dit, c'est Bibi qui a le sang sur les mains. C'est assez fou d'arriver à cette haine à l'intérieur d'Israël. Donc, on peut dire que l'Iran a réussi son coup. Il a divisé Israël, il divise l'Occident. On voit bien que les Américains, les Européens sont pas sur les mêmes voies, que l'Europe est divisée, et que chaque pays occidental est divisé, et qu'à l'intérieur de chaque pays occidental, vous avez une partie non négligeable de la population occidentale, y compris les Juifs, qui sont contre Israël. Donc cette attaque iranienne, cette guerre d'usure, elle a porté ses fruits. Et je rappelais la semaine dernière aussi que ça commence à porter ses fruits sur le plan économique. Donc voilà.
Et alors, quelles sont aujourd'hui les options d'Israël, Daniel?
Écoutez, je les ai déjà décrites, il faut les rappeler à chaque fois. Il faut que chers auditeurs, vous ayez en tête qu'il n'y a que 3 options face à cette attaque iranienne. L'apaisement, la guerre, la dissuasion. L'apaisement, c'était l'accord sur le nucléaire de 2015, un très mauvais accord. Et Obama disait, c'est un premier accord, mais en dehors de la guerre, je vois pas ce qu'on peut faire. Et donc, il reste, on est sorti heureusement de l'apaisement, qui était une folie, c'est Munich, il faut arrêter. Mais la guerre, à part Israël, qui a intérêt à libérer ses forces et à essayer de détruire définitivement, comme il l'a fait pour le Hamas, de détruire le Hezbollah au nord, ce qui serait une très bonne opération pour Israël. Malheureusement, Israël peut pas le faire seul, pas mener une guerre seule contre l'Iran et ses 3 H et ses 3 M, ça fait beaucoup. Elle peut le faire, je dirais militairement, mais les dégâts en Israël seraient terribles. Il y aurait il faut jamais oublier que c'est un tout petit pays et que les infrastructures vitales d'Israël sont très concentrées. Un missile sur la baie de Haïfa, pour ceux qui ont en tête cette vision de la grande baie de Haïfa où sont concentrées les industries chimiques, les stocks de pétrole, où arrive grande partie des importations d'israéliennes. Quelques missiles et il n'y a plus de baie. Quelques missiles, il n'y a plus de Tel Aviv. Donc, si vous voulez, il faut voir que pour mener cette guerre, il faut être appuyé par les Américains. Les Américains ont décidé de ne plus faire de guerre au Moyen-Orient. Ils ont conclu qu'on ne pouvait plus gagner de guerre. Ils ont d'ailleurs pas tout à fait tort. Donc il reste l'option de la dissuasion. Et c'est ça sur lequel il faut maintenant se pencher. Quel type de situation de dissuasion peut fonctionner avec des ennemis qui, étant fanatiques, religieux fanatiques, ne sont pas dissuadés de façon traditionnelle. On ne peut pas dissuader des gens qui sont irrationnels. Et donc, il faut augmenter la dissuasion. D'où ce sentiment de disproportion à chaque fois que l'Occident réagit, parce qu'il faut une dissuasion renforcée pour convaincre des fanatiques d'arrêter. Et donc, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est ça, c'est à la mise en place d'une dissuasion renforcée. Et donc, elle n'est pas terminée, cette dissuasion, elle est en cours de route, et on aura besoin des Américains, et on aura besoin donc du prochain président, quel qu'il soit, pour mener une dissuasion. Je crois que la dissuasion, ça, c'est vendable aux Américains, une dissuasion forte qui impliquera les Arabes sunnites, Israël, des garanties américaines, et ça sera l'objet certainement d'autres discussions entre nous.
Bien sûr, Daniel, il nous reste une petite minute. J'aimerais vous poser une dernière question. On a l'impression dans les médias, qu'ils soient européens ou américains, qu'on parle d'assassinats de civils comme on parlait à Gaza. Maintenant, on en parle au Liban. Israël ne perd pas sur le terrain médiatique?
Alors, Israël, évidemment, a beaucoup perdu, mais on voit bien que les ennemis aujourd'hui, ils sont concentrés dans peu de voies. Vous avez 2 ennemis principaux d'Israël qui qui propage ces fake news, hein, au fond, c'est deux Occidentaux. C'est le Portugais Antonio Guterres à l'ONU, qui, de sa propre initiative, se sentant soutenu par la majorité de l'Assemblée générale, ce qu'on appelle le Sud global, déverse des mensonges horribles sans qu'on puisse l'arrêter, et au nom d'une organisation qui continue à être respectée par beaucoup de gens, même si tout le monde sait que c'est un machin sans pouvoir. Et puis l'autre, c'est le porte-parole de l'Union européenne sur le plan la politique extérieure, le catalan Josep Borrell, alors qui vit ses derniers jours parce que maintenant il va être remplacé, je ne sais pas par qui, parce que jusqu'ici on n'a pas eu de chance, on a toujours eu des anti-israéliens primaires, et Borrell est le porte-parole occidental et européen des fake news contre Israël. Donc voilà, on voit l'Occident ennemi de lui-même, et c'est pour ça que ces fake news sont efficaces parce qu'elles viennent de notre propre camp. C'est ça qui est tragique. Et donc vous avez raison de le souligner. La guerre médiatique, elle continue, mais je dirais Israël ne l'écoute pas. Elle sait que ça fait très longtemps qu'elle en a pris son parti et que tout se joue non pas dans les journaux, mais sur le terrain.
Eh bien, Daniel Haber, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous tenez une conférence le mardi 24 septembre sur ces 1 an de guerre à 18h heure française. On mettra le lien Zoom dans le podcast de ces conversations.
D'accord,
Merci à vous d'avoir été
d'accord,
avec nous.
d'accord, d'accord. Je ferai justement un bilan de tout cela.
À la semaine
À la semaine
prochaine.
prochaine.